Eh bien, bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. J'ai pour habitude de commencer mes interventions par des remerciements. En l'occurrence, je suis un des organisateurs du séminaire, donc ça ferait un peu bizarre de m'auto-remercier. Mais ceci étant dit, je voudrais quand même remercier les autres organisateurs du GRID parce que ça a été un vrai plaisir d'organiser ce séminaire avec vous pendant toute l'année. Donc, merci beaucoup. Voilà. Ceci étant dit, donc comme l'a dit Mathieu, j'ai fait évoluer mon sujet. Donc il s'insère dans un travail plus général sur l'histoire de la psychiatrie coloniale en Algérie. Je devais présenter donc la séance précédente qui a été finalement annulée. Donc j'ai essayé de le faire évoluer pour deux raisons. Donc la première, c'est pour essayer de coller davantage à la thématique de la séance qui nous occupe aujourd'hui. Et la deuxième, c'est parce que je voulais aussi faire quelque chose qui soit moins asilo-centré. Je voulais présenter au départ quelque chose sur les sorties d'asile. Et je me suis dit qu'étant donné la thématique qu'on avait définie et les autres présentations qu'on a eues jusqu'à présent, j'allais essayer de faire quelque chose qui soit davantage, qui implique davantage d'autres institutions que l'asile. Et donc, j'ai choisi le sujet suivant, à savoir la prise en charge psychiatrique des détenus politiques pendant la guerre d'indépendance algérienne. Et je voudrais commencer avec un cas, donc le cas de Messaoud B, que vous avez ici en photographie sur le PowerPoint, et qui est admis à l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville le 2 novembre 1959. Donc la fiche d'observation qui est remplie à l'occasion de son entrée décrit son attitude de la façon suivante. Donc je vous passe les questions d'aspect général et je rentre directement sur la suite. Visage inexpressif, présentation très défiante, ne répond pas aux questions. Après un long moment, prononce d'une voix presque imperceptible « Tefechoun ». Donc derrière cette réponse pour le moins sibylline se cache en fait la provenance du malade. En fait, le dossier médical précise que le peintre en bâtiment de 24 ans, vient de passer plus de 4 mois au sein du camp d'internement nommé donc Tefechoun. Et donc à l'occasion de cet internement, il a présenté des troubles mentaux qui ont justifié son envoi vers l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville que vous avez ici en photographie. Et donc comme Messaoud B, en fait ils sont plusieurs dizaines de civils à faire l'objet d'hospitalisation psychiatrique à l'occasion d'un internement ou d'un emprisonnement politique au cours de la guerre d'indépendance algérienne. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ces transferts mettent aux prises des institutions aux fonctions très distinctes. Donc d'un côté, vous avez l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, qui est situé à 40 km d'Alger, et donc qui est théoriquement destiné à recevoir des malades mentaux dangereux ou atteints d'affections chroniques, et donc nécessitant un traitement de longue durée. Donc l'hôpital est ouvert en 1933 et au moment du déclenchement des hostilités, il prend en charge un peu plus de 2000 malades qui sont à la fois européens, algériens et qui sont aussi des hommes et des femmes. Et en fait, l'hôpital demeure très longtemps le seul établissement de ce type en fonctionnement sur le sol algérien. Il est rejoint à la fin des années 50 par l'hôpital psychiatrique de Sidi Chami, qui est à proximité d'Oran. Mais je ne suis pas parvenu à accéder aux archives de ce deuxième hôpital, donc je ne le prendrai pas en considération dans le cadre de cette présentation. Donc ça, c'est une extrémité de la chaîne, et à l'autre extrémité, vous avez donc les structures pénitentiaires. En fait, je me suis rendu compte que je parlais de chaîne, mais c'est davantage une boucle, puisque vous allez le voir dans la présentation, en fait, les malades sont envoyés à l'asile et repartent en prison ou dans les camps. Et donc vous avez ces structures pénitentiaires qui relèvent du dispositif répressif qui est déployé par les autorités françaises en vue de neutraliser les réseaux de soutien aux nationalistes algériens. Et donc ces structures comprennent des prisons civiles, qui envoyaient d'ailleurs déjà certains de leurs malades vers l'hôpital psychiatrique de Blida avant la guerre. Et au-delà des prisons civiles, vous avez donc les camps d'internement qui viennent progressivement s'ajouter au fur et à mesure du conflit. Et donc, ces hospitalisations d'internés et de prisonniers politiques confrontent les administrateurs et les médecins à un problème spécifique, à savoir les attributions et les horizons d'attente d'un établissement psychiatrique sont-elles conciliables, ou sont-ils conciliables plutôt, avec les impératifs répressifs propres aux camps et aux prisons. Donc les travaux fondateurs de Goffman et de Foucault ont permis, ont fourni un appareil théorique qui est stimulant pour penser les connexions entre structures pénitentiaires et structures asilaires, et donc par le biais notamment du concept d'institution totale et de celui d'institution disciplinaire, ils ont contribué à mettre en lumière une forme de continuum dans les usages et les principes de fonctionnement des asiles et des prisons. Et dans la configuration qui nous intéresse ici, cette correspondance se retrouve jusque dans le vocabulaire administratif, puisqu'on utilise le terme d'internement à la fois pour la détention dans un camp et également pour celui de l'admission à l'hôpital psychiatrique. Donc évidemment, à travers mon propos, il s'agit pas de remettre en cause la fécondité des raisonnements du sociologue américain et du philosophe français, mais le questionnement de ma présentation se place néanmoins sur un registre légèrement différent. En fait, à travers l'étude des trajectoires des individus concernés, il ne s'agit pas tant de s'intéresser aux caractéristiques communes des structures impliquées dans le processus, mais davantage d'observer ce que ces hospitalisations révèlent du positionnement respectif de ces institutions les unes par rapport aux autres. C'est une question qu'évoquait Mathieu en introduction. Donc pour ce faire, je m'appuie sur un triple champ historiographique. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des noms puisque la bibliographie sera sur le site, mais donc ces trois champs historiographiques sont d'abord donc les études consacrées à l'histoire de la répression pendant le conflit d'indépendance algérien, avec notamment les travaux de Sylvie Thénault et Raphaël Branche, puis les recherches portant sur l'histoire de la psychiatrie coloniale au Maghreb, et enfin ceux consacrés à la psychiatrie civile et militaire en temps de guerre. Et à partir de ces différents travaux, l'objectif est de mettre à jour les logiques, les représentations et les rapports de force institutionnels qui sous-tendent la prise en charge psychiatrique des détenus politiques en Algérie entre 1954 et 1962. Alors, pour mener à bien cette enquête, je me suis appuyé sur un type d'archives particulier que Mathieu a évoqué aussi dans l'introduction, à savoir les dossiers administratifs et médicaux des malades concernés. Donc dossiers qui font l'objet, depuis quelques années maintenant, d'un intérêt grandissant de la part des chercheurs, notamment en histoire de la psychiatrie. Donc j'ai travaillé à partir des nombreuses pièces qui composent ces dossiers. Donc je vous ai mis deux types de pièces sur le PowerPoint, mais je ne vais pas toutes les détailler, mais vous avez notamment donc des certificats médicaux, la correspondance administrative, éventuellement la correspondance avec les proches du malade. Donc toute une série de pièces qui sont potentiellement intéressante dans le cadre de cette présentation. Et donc, qu'ont rendu possible la reconstitution précise des parcours des patients emprisonnés et internés. Alors, le cas de Messaoud Bey que j'évoquais tout à l'heure en ouverture me servira de fil rouge tout au long de la présentation. Donc, il ouvrira chacune des sections qui composent cette présentation. Et donc ces trois parties, en fait, l'enchaînement de ces trois parties correspond à celui des différentes étapes du processus d'hospitalisation psychiatrique. Ça me rappelle un peu la composition du plan de la présentation d'Elsa, donc à savoir transfert et admission, élaboration des diagnostics et traitements et sortie des malades, ce qui permettra d'évoquer des thématiques qui sont revenues au fil des différentes séances du séminaire. Et qui pose, donc en définitive, la question des interactions entre logique répressive et logique thérapeutique. J'en arrive à ma première partie, je vais juste prendre le tableau. Alors j'ai mis le plan sur le PowerPoint, je ne sais pas si vous le voyez. Mais donc, une première partie qui est consacrée aux procédures d'admission et de transfert donc entre les camps et les prisons et l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville. Alors, l'itinéraire de Messaoud Bey, donc, que j'ai récapitulé sur cette carte, donc, il démarre à Kolo, ici, donc, qui est une ville située à une centaine de kilomètres au nord de Constantine. Et donc, Messaoud Bey naît à Kolo en 1935. Donc son parcours se poursuit de l'autre côté de la Méditerranée, à Aix-les-Bains, donc tout en haut de la carte, où le jeune homme émigre, probablement pour rejoindre son frère aîné et trouver du travail. Et donc il est arrêté à Aix-les-Bains, dans la station thermale française, en 1958, pour des raisons que son dossier ne précise pas. Après 9 mois de prison, il est reconduit en Algérie, donc c'est le sens de la flèche qui va dans l'autre sens, et transféré vers le centre de Tefechoun que j'évoquais tout à l'heure. Et il compte alors parmi les 11 000 individus détenus dans les camps d'internement français en 1959. Mais donc son attitude à l'occasion de cette nouvelle période de réclusion lui vaut d'être finalement acheminé vers l'hôpital psychiatrique de Blida, où il est admis d'office sous le numéro de matricule 13187. En fait, ce qui est intéressant avec la trajectoire institutionnelle de Messaoud B, c'est qu'elle offre un bon aperçu des différentes étapes de l'appareil répressif depuis lesquelles des détenus politiques sont envoyés vers l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville. Donc dans un premier temps, les individus qui sont soupçonnés de soutenir la rébellion sont arrêtés et interrogés. Et lorsque les preuves sont suffisantes, les suspects sont condamnés et emprisonnés. Et donc à leur sortie de prison ou en l'absence de condamnation judiciaire, ils peuvent être envoyés vers ceux que l'administration désigne parfois comme des centres d'hébergement. Alors, en fait, la terminologie administrative, qui recourt évidemment à des euphémismes, masque la fonction policière de ces camps. En fait, ceux-ci, ces camps, ont pour mission officielle d'assurer la surveillance des personnes dont, je cite, « l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public ». Donc c'est des structures qui sont créées à partir de 1955 et qui sont progressivement réparties sur l'ensemble du territoire algérien. Et elles finissent par former ce que Sylvie Thénault qualifie de système de détention parallèle aux prisons. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque département compte ses propres prisons et camps d'internement, donc département d'Alger, d'Oran et de Constantine, mais que les transferts de détenus en direction de l'HPB impliquent avant tout les prisons et les camps du département d'Alger. Donc les dossiers médicaux font notamment état de patients en provenance de la prison civile d'Alger, de celle de Blida, d'Orléansville, et des maisons d'arrêt de Berouadja et de Maison Carrée. Alors la liste des camps d'internement, elle est plus resserrée. En fait, les deux principaux camps concernés sont ceux de Tefechoun et de Paul Cazel, qui sont figurés sur la carte. Paul Cazel est ici, et Tefechoun justicier, qui sont les deux principaux camps du département d'Alger. En fait, cette provenance des structures du département d'Alger, à mon avis, s'explique par le fonctionnement du dispositif d'assistance mentale algérien. Donc, j'ai pas le temps de revenir en détail sur la façon dont fonctionne ce dispositif. Mais donc vous avez l'hôpital psychiatrique de Blida, qui est le seul hôpital psychiatrique, mais vous avez des services de première ligne qui sont donc placés à Oran, Constantine et Alger. Et donc, à mon avis, les malades des structures des deux autres départements, donc de Constantine et Oran, ont envoyé leurs détenus atteints de troubles mentaux vers les structures de première ligne des autres départements. Alors, au premier abord, la décision de ces institutions d'entreprendre des transferts vers l'hôpital psychiatrique de Blida peut paraître surprenante. Donc, quels sont les motifs qui poussent ces instances de répression à solliciter l'hospitalisation psychiatrique de certains détenus? À mon sens, davantage que la préservation de l'état de santé des détenus, c'est avant tout le maintien de la discipline et de la sécurité au sein des camps et des prisons qui motive le déclenchement de ces procédures. Donc je cite ici une note datée du 20 octobre 1959, que je vous ai reproduite sur le PowerPoint, dans laquelle le commandant du centre de Tefechoun reproche à Messaoud B de se livrer, donc je cite, « devant ses camarades à des actes inconsidérés qui troublent l'ordre du camp ». Et donc parmi les comportements répertoriés dans les dossiers individuels que j'ai retrouvés, donc on retrouve refus d'obéissance aux ordres, agression vis-à-vis des condisciples ou des agents de surveillance, destruction de vêtements ou de matériel, ou encore tentative irréfléchie d'incendie ou d'évasion. Et donc dans leur correspondance, les administrateurs des structures répressives font valoir la double menace suscitée par de tels agissements. En fait, les rapports traduisent d'une part la crainte du mauvais exemple offert par les prisonniers et les internés atteints de troubles mentaux. En fait, ils redoutent de voir des attitudes qui peuvent être qualifiées de perturbatrices se propager. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'ils mettent en avant le risque de blessure, voire de mort, que ces conduites font peser sur les individus incriminés, ainsi que sur leurs co-détenus et sur les gardiens. Donc, en résumé, à leur dangerosité politique vient se superposer une dangerosité morale et physique qui justifie leur admission à l'HPB. Et donc, oui, j'aurais peut-être dû le préciser avant, hein, HPB, c'est hôpital psychiatrique de blindage, j'utilise le mot depuis tout à l'heure, mais... Donc, ces hospitalisations apparaissent d'autant plus nécessaires à l'administration pénitentiaire que les moyens dont elle dispose pour faire face à ce type de situation sont relativement limités. Donc, dans les dossiers, j'ai trouvé mention de détenus attachés ou mis en cellule, dans le cas des centres d'hébergement, qui sont déjà en cellule en ce qui concerne les prisons, ou encore l'attribution occasionnelle de neuroleptiques lorsque le médecin de l'institution d'origine en est pourvu, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc, en résumé, ces hospitalisations psychiatriques constituent une solution opportune face aux problèmes suscités par la surveillance des détenus dont l'équilibre mental a été rompu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les procédures qui sont engagées à ce titre s'apparentent à celles utilisées pour les autres malades pris en charge à l'HPB. Donc, comme Messaoud B, la majorité des prisonniers et des internés sont admis sous le régime de l'internement d'office. Et donc, selon la loi du 30 juin 1838, qu'on a régulièrement citée au fur et à mesure du séminaire, et donc qui est appliquée à l'Algérie depuis 1878, ce type de placement concerne toute personne dont l'état d'aliénation compromet l'ordre public ou la sûreté des personnes. Et j'ai trouvé ça intéressant, en fait, je me suis rendu compte que la formule elle rappelait énormément celle qui est utilisée pour les camps d'internement. Je vais pas la reciter là, mais il y a vraiment un écho qui m'a paru assez frappant dans la formulation des deux textes réglementaires. En cas de danger imminent, la loi dite sur les aliénés prévoit même, dans son article 19, une procédure d'urgence à laquelle l'administration pénitentiaire peut recourir. Donc je passe sur les détails de cette procédure, mais elle est utilisée dans le cas de Messaoud B. Donc l'imminence des risques encourus sont certifiés par un certificat médical qui est rempli par la main du médecin du camp et qui est complété par des témoignages qui sont fournis par les co-détenus et le personnel d'encadrement du camp, en l'occurrence un moniteur d'action psychologique et le commandant du centre de Tefechoum. Donc si les procédures mises en œuvre pour faire interner les détenus politiques ne diffèrent pas fondamentalement de celles enclenchées pour les autres patients, en revanche, les profils de ces malades particuliers se distinguent par leur relative homogénéité. En effet, la population de l'établissement psychiatrique dans son ensemble présente une certaine diversité en termes d'âge, de race ou de sexe. Alors que la grande majorité des malades envoyés par les camps et les prisons sont, comme Messaoud B, des hommes algériens âgés de 20 à 45 ans. En fait, c'est pas véritablement étonnant, puisque le profil des prisonniers et internés atteints de troubles mentaux correspond relativement conforme à celui des autres détenus politiques, parmi lesquels les femmes, les Européens et les hommes très jeunes ou très âgés sont en minorité. Donc reste désormais à savoir si cette homogénéité se retrouve également dans les affections présentées par ces patients particuliers. J'en arrive à ma deuxième partie. Et donc pour entamer cette deuxième partie, j'en reviens au parcours du désormais fameux Messaoud. Donc au moment de son entrée à l'hôpital psychiatrique de Blida, le jeune homme est immédiatement placé en observation, comme tous les patients qui sont admis au sein de l'institution psychiatrique. Et donc, au cours de cette période initiale d'hospitalisation, il est soumis à plusieurs entretiens médicaux et plusieurs examens qui doivent permettre d'identifier à la fois les symptômes et les causes des troubles qu'il présente. Et donc, à l'issue de cette phase d'investigation, le docteur Maudou, donc, qui est le responsable de la division intégrée par Messaoud, établit le certificat médical suivant. Jeune Algérien, trouble réactionnel à la suite d'un internement dans un centre d'hébergement, ralentissement global, trouble mnésique résiduel, manque de contact, tendance dépressive. Alors, les annotations qui sont inscrites donc, dans le dossier de Messaoud B invitent tout d'abord à s'intéresser aux symptômes qui sont manifestés par les internés et les prisonniers politiques. Donc ceci présente de fortes similitudes. Les observations médicales mentionnent régulièrement l'existence de crises anxieuses, de crise dépressive, de tendance au mutisme ou à l'isolement, ou encore d'insomnie et de refus d'alimentation. Donc il est précisé dans le dossier de Messaoud Bey qu'il arrive à l'hôpital psychiatrique de Bida considérablement amaigri. Parmi les troubles récurrents figurent aussi des accès d'agitation, de nervosité, des idées de suicide et de persécution, et enfin des délires et des hallucinations. Donc là, je cite un exemple. Mustapha L., qui est évacué de la maison d'arrêt de Berwadja en mai 59, se considère comme, je cite, « le prophète des temps prochains », ce qui n'est quand même pas rien, vous en conviendrez, tout en s'accusant de massacres imaginaires. Alors, faut-il voir dans ces manifestations analogues les indices de la présence d'un facteur pathogène commun. En fait, une fois les symptômes répertoriés, l'enjeu pour les psychiatres consiste à évaluer l'importance respective des différentes causes identifiées afin d'établir le diagnostic le plus approprié. Et dans le cas des situations que je mentionne depuis le début de la présentation, en fait, il s'agit pour les médecins de déterminer si l'expérience de l'enfermement est directement responsable de l'apparition des désordres mentaux ou si elle n'a fait que révéler ou alimenter des altérations psychiques qui seraient préexistantes à l'enfermement. Donc dans quelques cas, les médecins estiment que les troubles trouvent leur origine dans les antécédents personnels et familiaux du patient. C'est le cas notamment pour Djilali Bey, dont les crises d'allure épileptique, je cite, aurait débuté plusieurs années avant son internement au sein du centre d'hébergement de Paul Cazel. Mais dans la majorité des dossiers de malades, qui sont envoyés donc par les institutions répressives, les médecins envisagent, avec certes des degrés de conviction plus ou moins variables, la détention comme un facteur étiologique de première importance. Alors à ce niveau, plusieurs éléments sont pris en considération par les psychiatres, à commencer par l'impact de la décision judiciaire, en particulier dans les cas de prisonniers condamnés à mort ou soumis à de longues peines de réclusion. En ce qui concerne les patients assignés à résidence, c'est l'incertitude qui est associée notamment aux motifs et à la durée de leur enfermement qui peut aussi être considérée comme génératrice d'anxiété. Enfin, les médecins tiennent également compte des conditions d'incarcération, ponctuées pour certains de torture et de mauvais traitements. C'est le cas notamment pour Driss E, qui est hospitalisé en février 1961, et dont les crises paraissent, je cite, « consécutives aux sévices qu'il a subis au cours d'un interrogatoire à la prison civile de Blida ». Alors, l'influence déterminante des expériences disciplinaires des malades se matérialise également dans le choix des diagnostics qui sont appliqués par les psychiatres de l'HPB à ces malades particuliers. En fait, les formulations, donc qui varient en fonction des symptômes des patients et également des sensibilités théoriques des médecins, sont fréquemment accompagnées d'un épithète, qui est l'adjectif réactionnel, qui était dans le diagnostic de Messaoud Bey que j'ai cité tout à l'heure. Donc d'après la définition qui est reproduite en 1952 dans le manuel du docteur Antoine Porot, donc je vais pas revenir en détail sur la personnalité d'Antoine Porot, mais il faut savoir que c'est le fondateur de l'école algérienne de psychiatrie, donc c'est vraiment un personnage central de la psychiatrie coloniale en Algérie. Et donc dans la définition qu'il reproduit dans son manuel, qui est largement diffusé, le terme de psychose réactionnelle est qualifie tout état psychopathique survenant d'emblée ou après un temps de latence consécutivement à un choc affectif. Autrement dit, le diagnostic tend à privilégier le rôle d'un événement, donc en l'occurrence de l'enfermement, sur celui des autres antécédents du sujet concerné. Donc c'est le cas, pour citer un autre exemple, de Ahmed O, qui est transféré depuis la prison de Berwadja à l'HPB en mai 61, et dont les troubles s'apparentent, pour le docteur Marès, à une psychose d'origine certainement réactionnelle, à des traumatismes vitaux récents, et là c'est indiqué entre parenthèses, terrorisme, puis emprisonné et condamné à mort. Donc, au total, l'affirmation du caractère potentiellement pathogène de l'enfermement et des pratiques de répression apparaît de façon assez sensible dans les dossiers médicaux individuels. Et ce qui est intéressant, c'est que le constat est totalement différent en ce qui concerne les deux seules publications scientifiques qui sont consacrées au retentissement psychopathologique des événements d'Algérie. En effet, les conclusions qui sont avancées par Maurice Porot, donc qui est le fils d'Antoine Porot que je citais tout à l'heure, dans ces deux articles qui sont publiés respectivement en 1956 et 1958, sont très loin de faire écho aux observations qui sont dressées par les praticiens de l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville. En fait, Maurice Porot tend plutôt, lui, de son côté, à relativiser l'impact du conflit sur les esprits des populations civiles. En fait, il oppose quelques états réactionnels qu'il décrit comme authentiques à une majorité de situations qui sont dites trompeuses. Donc, ce décalage entre les usages de la pratique psychiatrique au quotidien et le positionnement scientifique de Maurice Porot trouve une double explication. La première renvoie au conformisme théorique du psychiatre en question. En fait, en minimisant l'incidence du conflit sur l'état de santé mentale de ses contemporains, et en rappelant le rôle de la prédisposition dans l'éclosion de ces troubles, le médecin Maurice Porot ne fait que reproduire un lieu commun de la littérature psychiatrique, et ses conclusions reprennent celles qui ont déjà été dressées auparavant pour les guerres de 1870 et celles de 39-45, par ses prédécesseurs, dont il mobilise d'ailleurs largement les travaux à l'appui de sa démonstration. En fait, les affirmations de Maurice Porot relèvent d'un raisonnement éthiologique qui est largement répandu, et elles traduisent également un positionnement politique sous-jacent, qui est moins évident pour le coup, et qui est visible à travers notamment le choix des exemples qui sont mobilisés au gré de ces deux articles, exemples qui sont particulièrement éclairants, puisque tous les cas qui sont mentionnés, donc les cas d'états réactionnels qu'ils considèrent comme authentiques, incriminent l'atmosphère, je cite, de terrorisation massive instaurée par ceux que le médecin qualifie de rebelles, donc autrement dit les nationalistes algériens, et l'impact psychologique des mesures répressives mise en œuvre par les autorités françaises, n'est, à contrario, jamais envisagée dans ces deux articles. Cet impact est en revanche directement évoqué par le docteur Frantz Fanon dans le chapitre intitulé « Guerre coloniale et troubles mentaux » de son ouvrage « Les damnés de la Terre », qui est publié en 1961. Oui, donc je vous ai passé le portrait de Maurice Porot, mais vous avez celui de Frantz Fanon juste ici. Donc dans ce chapitre, Frantz Fanon se défend explicitement de s'atteler à un travail scientifique. Pour autant, le psychiatre anticolonialiste délivre malgré tout des considérations d'ordre psychiatrique. Dans cette démarche, il s'appuie notamment sur ses propres observations qu'il a menées à l'HPB, donc où il a exercé en tant que médecin entre 1953 et 1956, avant de démissionner et de rejoindre la Tunisie pour s'engager entièrement dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Donc évidemment, les réflexions qui sont déployées par Frantz Fanon sont sous-tendues par des convictions politiques qui sont radicalement différentes de celles de Maurice Porot. En fait, elles prennent même l'exact contre-pied de celles de son confrère algérois, puisque dans le chapitre que j'évoque ici, le psychiatre met clairement en avant les effets pathogènes du conflit et des pratiques répressives utilisées par les autorités françaises. Et donc il rompt nettement avec la vulgate psychiatrique qui est réaffirmée à l'inverse par le docteur Porot. Et donc là où son homologue adoptait une conception restrictive du libellé réactionnel, Frantz Fanon plaide à l'inverse de son côté pour un assouplissement de la notion, donc là je le cite, « psychose réactionnelle si l'on veut utiliser une étiquette déjà établie, mais en accordant une singulière priorité à la guerre prise dans sa totalité ». Reste que, malgré les profondes dissensions entre les deux hommes, les deux praticiens s'accordent sur un point, à savoir les difficultés suscitées par le traitement et l'évolution des états réactionnels. Et on arrive donc là à mon troisième point. Et je suis même en avance, ce qui me surprend même, parce que c'est très rare. Donc, troisième point, que je vais ouvrir comme d'habitude avec le cas de Messaoud, et le troisième point qui est consacré donc aux sorties de ces malades particuliers, donc sorties de l'hôpital psychiatrique de Blida et retour vers, dans la majorité des cas, vers le camp, et, voire dans la totalité des cas, vers le camp et la prison. Donc, une fois que Messaoud est admis au sein de l'hôpital psychiatrique de Blida, le jeune homme bénéficie d'une prise en charge thérapeutique qui est établi donc par le docteur Modou, que je citais tout à l'heure. Et à en croire les observations qui sont inscrites dans son dossier individuel, cet encadrement porte rapidement ses fruits. Donc un mois à peine après son admission à l'HPB, le personnel de soins signale l'évolution positive de l'état de santé du patient. Donc là, je cite encore un élément du dossier de Messaoud que j'ai reproduit sur le PowerPoint. Très grande amélioration du comportement qui paraît être actuellement normal. Se demande ce qui lui est arrivé à Tefeshoun. Calme, docile, soigné de sa personne, serviable, s'occupe, fait du dessin. Sollicite une entrevue pour être fixé sur sa situation, fait allusion à sa sortie ou au retour au camp. Alors, le cas de Messaoud invite évidemment à s'intéresser aux pratiques de soins qui ont permis la rédaction de ses remarques à la fin du mois de novembre 1959. En fait, à la lecture des dossiers médicaux des malades emprisonnés et internés, il apparaît que les traitements qui leur sont appliqués s'apparentent à ceux qui sont administrés aux autres patients de l'établissement. Donc, en fait, ils sont de trois ordres principalement, à savoir donc des traitements de choc, donc électrochoc et insulinothérapie principalement, des méthodes sociales thérapeutiques que le docteur Fanon, que j'ai évoqué tout à l'heure, a lui-même contribué à implanter au sein de l'établissement. Juste deux mots sur les méthodes sociales thérapeutiques. En fait, l'idée, c'est de prendre en compte toutes les dimensions de la vie de l'hôpital, donc que ce soit le quotidien, les activités, les traitements, pour permettre aux patients de progressivement se resociabiliser et pour faciliter leur réintégration dans le monde extérieur. Et donc, à son arrivée à l'hôpital psychiatrique de Blida en 1953, Frantz Fanon, qui était un des partisans de ces méthodes, a largement contribué à les développer au sein de l'établissement. Et donc, les troisièmes types de thérapeutiques qui sont appliquées à ces patients sont évidemment les neuroleptiques, dont le recours est de plus en plus fréquent à la fin des années 50. Et donc, dans le cas de Messaoud, il est notamment soumis à un traitement à base de Largactil, pardon, qui est un neuroleptique qui est utilisé dans la prise en charge d'un grand nombre d'affections différentes. Mais la mise en œuvre de ces thérapeutiques n'empêche pas bon nombre de malades incarcérés de tenter d'abréger leur séjour au sein de l'hôpital psychiatrique de Blida. Et là, ça, j'avoue que c'est un point qui m'a surpris moi-même, puisque, en fait, dans les dossiers de ces patients, j'ai trouvé de nombreuses demandes de sortie qui sont formulées par les patients eux-mêmes ou par leurs proches, donc qui émergent régulièrement au fil de la consultation des dossiers. Donc c'est le cas notamment pour Messaoud, qui avait déjà fait part de son souhait de quitter l'établissement au docteur Maudou, et sa demande est appuyée par son frère Salah, qui appuie sa requête à la fin du mois de décembre 59 et qui s'adresse donc directement au médecin en écrivant la chose suivante dans une lettre que j'ai retrouvée dans le dossier. Si vous voulez lui faire un grand plaisir, transférez-le à son camp parce qu'il s'ennuie là-bas. Donc là-bas, c'est l'hôpital. Donc ces démarches, on peut pas dire qu'elles soient systématiques ni qu'elles soient spécifiques, encore une fois, aux malades internés ou aux prisonniers. Par contre, elles traduisent l'enracinement des représentations et des expériences négatives qui sont associées à l'hôpital psychiatrique et dont les médecins ont le plus grand mal à se défaire. Et donc c'était aussi l'un des objectifs des démarches sociales thérapeutiques, c'était aussi de se débarrasser de ce type de représentation qui perdure malgré tout. Et donc malgré les difficultés qui sont associées à la vie dans les prisons et les centres d'hébergement, le retour dans leurs institutions d'origine demeure pour de nombreux patients préférable au maintien à l'hôpital psychiatrique de Blida, et ça j'avoue que c'est une conclusion qui m'a quand même étonné. Donc là je cite un autre exemple, c'est Ahmed O, qui est soumis à un traitement donc qui couple électrochoc et neuroleptique, et qui demande ainsi en juillet 1961 à réintégrer la maison d'arrêt de Berwadja parce qu'il ne peut supporter le voisinage des malades mentaux. Et c'est des choses que j'ai retrouvées aussi pour les quelques malades militaires qui ont été hospitalisés pendant la guerre d'indépendance algérienne. Une autre chose que je voulais évoquer brièvement, c'est que ces demandes traduisent l'existence d'une marge de manœuvre des malades et des familles dans le processus de sortie. Mais malgré cette marge de manœuvre, les démarches restent néanmoins subordonnées à l'arbitrage des médecins. Donc dans certains cas, les requêtes des malades et de leurs proches rejoignent les préoccupations des psychiatres. Il s'agit en particulier des patients dont le comportement ne permet pas de les conserver plus longtemps au sein de l'établissement, notamment puisqu'ils ne cessent de vouloir s'échapper de l'hôpital. Donc, je cite notamment un dossier, tentative incessante d'évasion, et la situation de ces malades est l'occasion pour les psychiatres de rappeler la vocation thérapeutique de leur établissement. Donc là, je prends le cas de Mohamed T, qui est envoyé en juillet 61 par la maison d'arrêt de Berriwadja, donc à la suite d'une tentative de pendaison pour état dépressif. Et donc son dossier déclare « L'organisation du service étant une organisation de soins, la surveillance constante de ce détenu ne peut y être réalisée. » Alors il y a un deuxième type de situation où les requêtes des malades et de leur famille peuvent faire écho à celles des médecins, c'est-à-dire lorsque l'amélioration de l'état de santé du patient est considérée comme suffisante. Donc ça, c'est le cas de Messaoud. Et donc dans ces cas-là, les psychiatres ne s'opposent pas nécessairement à un renvoi vers le camp ou la prison. Donc un peu de moins de 4 mois après son entrée à l'hôpital psychiatrique de Blida, Joinville, en janvier 61, Benkada B réintègre ainsi le centre d'hébergement de Paul Cazel, donc sur l'avis du docteur de Kecker, donc je cite le certificat, « Guérison de l'accès mélancolique confusionnel présenté à l'admission, sortie définitive. » Mais évidemment, il y a un certain nombre de situations qui sont plus incertaines et dans lesquelles le retour dans les camps ou les prisons, donc à savoir l'environnement qui est considéré comme pathogène par les médecins, n'est pas recommandé. Donc en mai 1959, Abdallah M. fait ainsi l'objet du certificat suivant, je le cite. « A présenté au cours de son séjour au centre d'hébergement de Berouadja un syndrome hallucinatoire réactionnel dont il est actuellement guéri. Il s'agit d'une psychose carcérale qui risque de récidiver si le régime de détention doit être repris. Il serait souhaitable qu'Abdallah M. fût remis à sa famille à sa sortie de l'hôpital. Et aussi étayée soit-elle, donc c'est vrai qu'il y a, il y a une vraie démonstration souvent dans les dossiers qui suivent cet argumentaire, j'ai trouvé aucun cas où les recommandations des médecins sont suivies par l'administration pénitentiaire et les mises en garde des médecins généralement ne sont pas entendues par cette administration qui conserve en dernière instance le pouvoir décisionnaire sur l'avenir des internés et des prisonniers hospitalisés. Alors quelle est la solution qui est adoptée par les médecins dans ces conditions ? Parce que évidemment l'idée c'est de limiter au maximum les risques de réapparition des troubles. Donc les psychiatres se rabattent sur une solution de fortune qui sont les traitements, ce qu'ils appellent les traitements d'appoint. Donc des traitements que les malades doivent poursuivre après la sortie pour solidifier leur état de santé. Donc c'est notamment le cas pour Messaoud. Donc là, j'ai réindiqué l'indication qu'il y avait dans son dossier sur le PowerPoint. Donc on trouve la mention suivante au moment sur le certificat médical de sortie. Donc le docteur Modou écrit que son état mental actuel permet sa sortie définitive à condition qu'il suive un traitement d'entretien. Donc là, il met les doses de l'argactyl, un comprimé matin et soir pendant 3 mois. Alors, souvent, je j'ai pas la trace de ce qui se passe par la suite au camp, et je ne sais pas si ces traitements sont suivis. Mais j'ai quand même quelques indices qui me permettent d'émettre des doutes sur le fait que ces traitements sont effectivement prolongés une fois les malades retournés dans les camps ou les prisons, et c'est notamment les quelques cas de rechute que j'ai pu identifier au gré du dépouillement des dossiers médicaux qui m'invitent plutôt à être relativement sceptique sur le fait que les malades ont pu continuer à suivre leur traitement d'appoint. Donc c'est le cas de Lagdar D, qui est pris en charge une première fois à l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville en juillet 57 pour une psychose carcérale avec délire de persécution. Donc il est de nouveau admis quelques semaines plus tard à la suite d'une rechute que le docteur Faure explique par une crainte de la réincarcération. Et donc malgré la réapparition des troubles, le malade est de nouveau renvoyé en août 58 vers le camp de Paul Cazel sans que l'on puisse savoir si son état s'est finalement stabilisé. Donc j'en termine avec quelques remarques conclusives. Donc les logiques, les positionnements et les représentations qui sont associés aux hospitalisations d'internés et de prisonniers politiques pendant la guerre d'indépendance diffèrent en fait selon le point de vue adopté. Donc pour les médecins et l'institution psychiatrique, ces hospitalisations ne se distinguent pas de celles des autres patients de l'établissement. Les individus transférés sont avant tout considérés comme des malades qui doivent bénéficier des mêmes procédures et des mêmes soins psychiatriques que les autres patients. Et à travers les pratiques diagnostiques et les préconisations de maintien ou de sortie, les psychiatres ne manquent pas de rappeler la vocation thérapeutique de l'hôpital psychiatrique de Blida, qui les différencie des établissements répressifs d'origine des malades. Évidemment, le positionnement qui est adopté par les camps et les prisons se démarque de celui de l'établissement psychiatrique. Pour l'administration pénitentiaire, l'hospitalisation psychiatrique est considérée avant tout comme une condition du maintien de l'ordre et de la discipline au sein des structures de détention. Et quel que soit leur état de santé, les individus atteints de troubles mentaux restent des menaces potentielles pour la sûreté de l'État français. Et donc dans ces conditions, les logiques thérapeutiques demeurent subordonnées aux logiques répressives, conclusion qui est finalement pas étonnante et qu'on avait déjà retrouvée d'une certaine manière dans d'autres présentations. Et donc, dernière chose, ces décisions ne sont pas sans conséquences sur le devenir des malades emprisonnés et internés. Donc j'aurais bien aimé évoquer davantage l'expérience de ces malades. Malheureusement, les dossiers m'ont pas forcément permis de le faire. C'était un des points que Mathieu avait soulevé en introduction. Reste que pour ces derniers, l'admission à l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville représente une étape supplémentaire au sein d'une longue carrière institutionnelle, donc pour reprendre une terminologie d'Erwin Goffman. Pour beaucoup d'entre eux, cette étape n'est pas forcément plus facile à supporter que les précédentes, et le retour au camp ou à la prison demeure souvent préférable au maintien à l'hôpital psychiatrique. Et